Bonjour Céline.
Bonjour Michel.
Ça va bien?
Oui, ça va bien. Toi aussi?
Oui, merci. Donc, bienvenue à cette nouvelle série Être philosophe aujourd'hui qu'on a lancé déjà. C'est déjà le deuxième épisode de la série pour ceux qui nous suivent. La première était avec Charles Goyette, directeur de Nouvelle Acropole Montréal. Et toi et moi, on a déjà fait des entrevues ou des vidéos qu'on peut trouver sur notre chaîne YouTube pour ceux qui nous écoutent et sur notre chaîne de podcast. Donc, merci d'avoir accepté cette entrevue où on essaie surtout de montrer un visage des philosophes d'aujourd'hui, c'est-à-dire des philosophes acropolitains, des philosophes à la manière classique, des gens qui mettent en pratique la philosophie dans leur quotidien, qui essaient de le vivre autant au travail, avec les amis, avec la famille, et qui, sont comme tout le monde. Ils se posent des questions, ils essaient d'éveiller en eux le meilleur et de le vivre. Et pour ça, il faut comprendre la nature, les lois de la vie, et se comprendre, se connaître. Et donc, toi, ça fait...
Vas-y. C'est un beau programme. Ça fait plaisir de te retrouver autour de toutes ces questions-là.
Ce sont des questions, qui ne sont jamais épuisées. Il y a toujours quelque chose qu'on peut dire parce que la vie continue, le mouvement continue. Donc, on apprend chaque jour, on apprend sur soi. Et toi, je commencerai par nous un peu de ton... quelques lignes, là, pour ceux que c'est la première fois qu'ils nous écoutent, un peu ton chemin, parce que tu as connu peut-être la philosophie à la naissance, c'est-à-dire l'enfant qui se questionne et qui cherche, mais aussi tu as fait ton chemin et tu as découvert la Nouvelle Acropole au travers de tout ça. Donc, peut-être quelques mots sur ton chemin. Qu'est-ce qui... Il y aurait beaucoup à dire, j'en suis sûr, mais seulement quelques lignes.
Des moments importants dans mon parcours, mais c'est vrai que ça commence jeune. Je pense que tu as mentionné les enfants, l'enfance. Je pense que dans l'enfance, on a des questions philosophiques, des grandes questions sur la vie. C'était mon cas. Mmh. Le questionnement sur le sens des choses est important. Ça m'a amené à lire beaucoup, à observer le monde autour de moi, à chercher à comprendre. C'était fondamental. Puis je me suis dirigée vers la littérature. Et je pense que je l'avais déjà mentionné pour ceux qui ont déjà écouté des entrevues qu'on a fait ensemble, que c'est la littérature, en fait, c'est la poésie qui m'a amenée à la philosophie. J'ai pu découvrir à travers des études sur l'art et le sacré, une auteure qui a changé ma vie. Des fois, il y a des rencontres comme ça. C'était avec Elena Petrovna Blavatsky, en fait, la doctrine secrète, alors que je faisais des études sur l'art et le sacré. Alors, ça a ouvert chez moi tout un champ d'exploration, d'interrogation aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu rencontrer Nouvelle Acropole, qui, à l'époque, offrait une conférence sur Elena Petrovna Blavatsky pour le 100e anniversaire de sa désincarnation. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la philosophie.
Et ça fait quand même un bout, c'est en quelle année, 1991?
Ben oui, 1991, c'était le 100e anniversaire de sa désincarnation. Elena Petrovna Blavatsky, un précurseur dans l'approche comparative des civilisations, qui a transmis tout un legs de ses sagesses atemporelles, qui aujourd'hui continue de nous éclairer et de nous permettre de comprendre le monde dans lequel on vit.
Mm-hmm. Oui, bien, c'est un personnage historique pas si connu que ça, et elle a tellement influencé, je peux faire une parenthèse sur ça, elle a influencé tout le monde artistique, scientifique, culturel et même politique de son époque. Et on en mesure à peine toute son influence en Occident, en Orient même, partout dans le monde. Et plusieurs grands personnages l'ont rencontré. On parle Thomas Edison, Conan Doyle, qui est l'écrivain de Sherlock Holmes. On a Gandhi qui l'a rencontré quand il était jeune. Et Einstein lisait ses livres. Et tout le, elle leur a donné à l'Occident les connaissances perdues. Elle a essayé, à tout le moins, de redonner une connaissance perdue où on était même dans les années 1800, parce qu'elle a vécu 1830 à 1891 environ. Et puis, c'était une période où de révolution, la fameuse révolution industrielle, dans ces eaux-là, et puis là, tout le mouvement matérialiste qui commençait à l'époque. Et puis, elle a essayé de nous rappeler que non, le but de la vie n'est pas que matériel, mais on a une destinée, un destin, un dharma, comme elle le dira. Je ferme la parenthèse sur ça, mais c'est un personnage vraiment intéressant. Et donc, je ne savais pas que tu l'avais rencontré avant l'école, ou peut-être qu'on avait déjà parlé, mais que avant de connaître Nouvelle Acropole.
Ah oui, c'était majeur pour moi. Et puis, c'est pour ça aussi que quand j'ai rencontré Nouvelle Acropole, j'étais vraiment heureuse parce que, en fait, je pouvais me reconnecter à une voie d'exploration, de rencontre avec ces grandes sagesses atemporelles aujourd'hui à Montréal. Moi, à partir de 1991, ça dévoile un peu mon âge. Mais oui, tu vois, et c'est ça, et c'était une porte ouverte à l'exploration depuis 30 ans, tu sais, que je continue d'approfondir toutes ces connaissances, toutes ces sagesses traditionnelles, et d'approfondir pour les vivre aussi, c'est ça.
Et qu'est-ce qui, si je te pose une question un peu inattendue, mais qu'est-ce qui tu vois comme le plus utile? C'est sûr que ça doit être pas simple à répondre, mais quelque chose qui t'a vraiment impacté ou transformé et que tu as vu comme utile lorsque tu as découvert la philosophie à la manière classique, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as pu voir rapidement et appliquer rapidement et voir les changements, ou plutôt ça a été une inspiration vers un devenir, une aspiration et une inspiration.
Oui, merci pour la question, Michel. C'est vraiment, vraiment intéressant et c'est important pour moi. Ça l'a été dès le début, mais ce que j'ai rencontré, en fait, à Nouvelle Acropole et dans le contact avec la philosophie, on va dire à la manière classique, c'est cette transmission pédagogique qui est basée sur l'exemple. C'est-à-dire que j'ai rencontré ici des philosophes, Denis Brignac, qui est fondateur de Nouvelle Acropole au Canada, d'abord, ensuite Catherine Guilherme, qui est actuellement la directrice nationale de Nouvelle Acropole pour le Canada, des individus qui vraiment vivaient ce qu'ils transmettaient. Mm-hmm. Et ça, pour moi, c'était un rêve. En tant que pédagogue aussi, j'ai toujours cru que la pédagogie, que l'éducation, que l'enseignement, c'était faire émerger les qualités intérieures. Pour moi, c'était inconcevable que l'éducation soit l'accumulation d'informations, de connaissances. Les ordinateurs peuvent faire ça. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, ChatGPT, par exemple, qui peut accumuler des informations, des données sans fin. Mais l'être humain est beaucoup plus que ça. C'est une véritable voie de connaissance fait émerger toute la dimension intérieure de l'être humain, sa capacité d'aimer, sa capacité de comprendre en profondeur, d'intuitionner, de capter une dimension métaphysique de l'existence. Et pour moi, c'est l'ouverture d'un chemin, d'un chemin de vie qui se poursuivait, en fait.
C'est vraiment... je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose d'important avec cette idée de chercher une profondeur à la vie. parce qu'encore aujourd'hui, on cherche à aller à l'extérieur, chercher des réponses, dont l'intelligence artificielle, ChatGPT, si on me pose la question, c'est quoi le sens de la vie, il va nous sortir une réponse. Puis, bon, je pense que ça ne sera pas satisfaisant, mais n'empêche qu'il y a ce courant où on doit absolument aller chercher des réponses avec ses bons et ses moins bons côtés dans les choses extérieures. Alors que non, la vie devrait nous, comme philosophe, nous amène à chercher des réponses à l'intérieur. Parce que c'est ce que les grands philosophes nous ont laissé. Donc, c'est de faire émerger ces réponses. Évidemment, on n'est pas des avatars. C'est-à-dire, on n'a pas nos réponses qu'on peut avoir. Il faut les mettre à l'épreuve. C'est ça qui nous dit si... Ce qui nous informe si c'est juste, en fait. C'est-à-dire, ouais. Si on arrive à s'ajuster. Tu l'as mentionné, cette chaîne pédagogique de quelqu'un a appliqué avant toi et puis peut t'aider à ajuster un peu.
C'est ça, tu as indiqué, mais comment rencontrer cette intériorité, cette connaissance qui existe à l'intérieur de soi, comme l'ont mentionné tous les grands philosophes, tu l'as bien dit, Michel, mais en même temps, c'est pas évident. C'est difficile de faire ça seul. Il y a besoin d'avoir des exemples, il y a besoin d'avoir des modèles, mais des modèles vivants. Les livres en sont des inspirations. On a besoin des livres, mais les livres ne suffisent pas. Il faut avoir des exemples vivants d'individus qui ont marché peut-être un peu plus que nous, qui ont incarné peut-être un peu plus que nous des dimensions de l'être humain, de ses valeurs intemporelles, comme pour nous aider à comprendre qu'on pressent que ça existe à l'intérieur de soi, mais qu'on peut le faire émerger aussi, qu'on peut dépasser peu à peu, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de patience, pas à pas, des obstacles qui, des fois, nous empêchent d'être nous-mêmes.
Oui, c'est ça qui est en fait aussi qui nous permet de se mesurer. Nous allons vivre des épreuves, des difficultés dans la vie, et donc la philosophie nous aide à traverser ces difficultés, nous aide à faire face aux problèmes ou à résoudre des problèmes.
Oui, c'est ça. Ça nous aide à être en contact avec une force intérieure qui soit réelle et qui nous permette de trouver des solutions, être plus en mode résolution, être plus en mode solution que de se sentir écrasé par les circonstances, des fois, de l'existence, qui sont les épreuves, comme tu l'as mentionné, de l'être humain, qui amène leur lot de souffrances parfois, mais quand tu découvres, OK, donc j'ai réussi à passer à travers ça, là, je suis en train de reconnaître des forces à l'intérieur de moi qui sont en train de m'aider. Et c'est moi c'est ce que ça m'a... C'est ce que ça continue de m'apporter. C'est ce que ça... Je continue de rencontrer à travers la vie qui apporte... Oui, c'est ça, la vie de tous les jours, qui apporte son lot d'expériences. Une confiance, ça m'aide à avoir plus confiance en moi, même si les circonstances extérieures sont difficiles, que je me dis, non, j'ai une intelligence, j'ai des capacités, alors je peux m'essayer. Je peux m'essayer à trouver des solutions. Des fois, ça ne marche pas. Ouais. OK, je continue d'en apprendre de ça. Puis des fois, ça marche. Donc, on arrive à résoudre. Alors, ça rend heureux, finalement. Ouais, même s'il y a les épreuves, il y a des difficultés, personne n'est à l'abri de ça. Mais tu te dis, il y a des forces à l'intérieur de soi, on peut aller les chercher.
Oui, c'est ça, qu'on peut faire face à toute difficulté. Il n'y a rien qui est là pour nous écraser ou pour nous... Même si on peut le sentir des fois, on peut tomber et c'est normal. Mais on peut avoir les forces en nous, les ressources en nous pour se relever et faire face aux difficultés, faire face aux problèmes. Peu importe ce qu'on vit, même si, je sais qu'il y en a qui doivent entendre, c'est facile de ne pas vécu telle chose. Oui, je sais. Mais chaque événement peut, plutôt dans un autre sens, on peut apprendre de chaque événement, aller voir les causes, aller voir qu'est-ce que ça touche en nous, qu'est-ce que ça dérange en nous, et voir ben, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fatal, c'est-à-dire est-ce que je peux rien faire, je suis fait comme ça, ou plutôt je peux voir, ben non, j'ai malgré toutes les difficultés, toutes les limitations que je peux avoir, je peux trouver une solution en fonction de tout ce qui est concret, en fonction de tout ce qui est en face de moi, qui sera pas la même solution que pour une autre personne qui ferait face à la même chose, mais en fonction de mes limites, mes capacités, mes forces, ben on trouve une solution.
C'est ça. Et puis, tu vois, c'est bon, les forces que nous avons, elles sont pas les mêmes aussi. Quand on parle des forces, on parle des qualités, on parle d'un potentiel qui est là chez chacun de nous, qui est différent. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que bon, ben, en étant dans un mode où on reprend confiance en soi, on reprend confiance en l'être humain également. Puis une aptitude à pouvoir s'ouvrir aux autres, pouvoir reconnaître les forces chez les autres et s'en inspirer également. Moi, ça, c'était des bases dans mon premier cycle de cours de philosophie. Tu vois, quand je suis justement arrivée à Nouvelle Acropole, ça, c'est. Cette réflexion sur le fait que bon ben on s'inspire les uns les autres, que ce qui est les disons les ombres que l'on peut rencontrer, ben c'est pas elles appartiennent pas nécessairement elles appartiennent pas à l'autre mais c'est en soi-même. Alors, à ce moment-là, on devient solidaires les uns des autres. On a tous à faire face à nos limites, mais on peut tous aussi s'inspirer du dépassement de ces limites que chacun de nous faisons. Donc, c'est comme une base pour l'humanisme, puis pour l'ouverture à l'autre, pour la compréhension de l'autre. Pouvoir s'inspirer des uns des autres plutôt qu'être dans un mode de critique les uns envers les autres. C'est ce qui existe beaucoup dans notre société contemporaine. C'est comme il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de critiques des uns des autres. C'est comme puis, bon, ben, ça crée un monde alors de méfiance, d'isolement aussi. C'est au lieu de pouvoir travailler ensemble. Il nous manque beaucoup ça aujourd'hui, je trouve.
Ouais, c'est un bon point que tu amènes, où je voulais amener aussi, c'est-à-dire l'aspect plus social de la philosophie, parce qu'on a parlé beaucoup de la partie, ce que ça nous apporte, mais aussi on voit que ça nous apporte quelque chose pour avoir de la compassion, de la compréhension, de la sympathie plus pour les autres, je pense, parce qu'on arrive à voir qu'on n'est pas parfait, premièrement, de voir que nous-mêmes, on a beaucoup à apprendre et à voir nos limites, à les dépasser, à voir que c'est difficile. Donc, peut-être, en tout cas, moi, ce que je peux témoigner un peu là-dessus, ou c'est être plus, comprendre plus les autres, que voir que ben, on n'est pas parfait, les autres ont de la difficulté aussi, les autres ont des problèmes, ont des périodes difficiles, et donc, ça nous permet de pouvoir aider davantage, en fait, au bout de la ligne. Parce qu'on arrive à avoir une vision un peu plus élevé des situations en général, bien qu'on n'est pas rendu nous non plus, mais dans le sens où on peut voir peut-être amener un petit éclairage à l'autre, ou juste d'être présent avec les autres, ou juste au moins de moins les juger, comme tu dis, être moins dans la critique ou la compétition ou la comparaison avec les autres, ben on arrive à être plus centré avec nous-mêmes et voir inclure les autres.
Ça, je pense que c'est fondamental aujourd'hui. Puis si on se rapproche de notre propre identité, on peut mieux rencontrer qui est l'autre et mieux s'accorder, s'harmoniser, travailler ensemble pour favoriser une meilleure. On en parle beaucoup hein, aujourd'hui, on utilise l'expression le vivre ensemble. Mais en même temps, on a du mal à vivre cette réalité. On est très isolés les uns des autres. Alors, Bon, ben, il faut pouvoir créer des espaces de rencontre. Je pense que c'est ça aussi une école de philosophie, créer un espace de rencontre qui fait qu'on peut prendre le temps de réfléchir, de s'écouter, de voir la richesse qui existe en chacun de nous, dans chaque être humain. Et à ce moment-là, ça peut donner lieu à des collaborations,
ouais.
Qui peuvent être à des initiatives, qui peuvent être vraiment enrichissantes, à la fois au niveau individuel et à la fois au niveau collectif.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Donc, c'est apprendre à vivre ensemble qui nous amène, qui est une découverte au travers de la philosophie, qui n'est pas juste réfléchir avec soi-même, mais d'être utile dans le monde dans lequel on vit.
C'est ça que la réflexion, tu sais, des fois, on a tendance, et ça, c'est un point par rapport à la philosophie, on a tendance à considérer la philosophie comme seulement l'aspect réflexion, mm-hmm. l'aspect intellectuel. Tu sais, ben, quoique nous, depuis le début, on est en train de parler de la philosophie à la manière classique,
ouais.
La philosophie qui repose sur une compréhension profonde des lois de la vie et de la nature. Mais vraiment, dans toutes les grandes traditions de sagesse, cette compréhension des lois de la vie et de la nature nous amène dans une possibilité d'agir en harmonie avec les lois de la vie.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, comment on s'harmonise à notre environnement, comment on s'harmonise les uns avec les autres, donc au niveau de la société, et comment on s'harmonise avec l'environnement, encore une fois, ben, tu sais, c'est notre maison, la Terre, tu sais.
Ouais,
on en parle beaucoup, mais c'est...
Oui, c'est à l'intérieur, c'est intéressant parce que c'est... On a tendance, encore une fois, à chercher des solutions à l'extérieur, aux problèmes environnementaux, à la nature, la pollution. Mais c'est souvent, si on regarde d'une autre façon, si on ouvre d'une autre façon, on voit que, en fait, ça vient à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on voit à l'extérieur est le résultat d'une vision du monde, d'une façon de faire avec soi-même, de se relier. Parce que si on éveille en nous cette harmonie, où on arrive à s'harmoniser avec nous-mêmes et avec les autres, bien, le résultat sera qu'il y aura moins de consommation, il y aura moins de pollution, si on veut, ou déjà au niveau des idées, parce qu'il y a beaucoup d'idées polluées qui traînent partout aujourd'hui et que ça se répercute jusque dans le monde physique. Donc, je sais que ça a l'air gros ce que je suis en train de dire là, mais il faut vraiment y réfléchir et faire ce chemin, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que on vit ces difficultés au niveau de l'environnement ou la pollution, que ce soit de l'eau, de l'air et tout ce qui va avec. Mais de où ça vient, en fait.
Ouais, et puis là, je trouve que tu touches à un point vraiment important et puis qui me rejoint beaucoup, tu sais, en tant que, avec mon côté artiste, toute ma démarche aussi poétique qui est toujours liée à la démarche philosophique, mais tu sais, Platon, par exemple, quand il mentionne la relation au principe, au beau, au bon, au juste.
Mm-hmm.
Notre relation à l'environnement, elle doit pouvoir passer par la reconnaissance du beau.
Mm-hmm.
La nature est belle. Et ça, c'est quelque chose qui vient rencontrer une expérience fondamentale de l'âme.
Mm-hmm.
Et aujourd'hui, c'est intéressant, chez les environnementalistes, il y a quelque chose qui apparaît justement au regard de ça,
mm-hmm.
la considération de la beauté, ouais. de la nature pour la protéger. Mm-hmm. Et il y a certains courants qui parlent, par exemple, de la géopoétique. C'est vraiment intéressant
mm-hmm.
parce que c'est justement la reconnaissance de la beauté de notre environnement, la beauté de la Terre avec ses cours d'eau magnifiques, avec ses montagnes, ses forêts, ses déserts,
mm-hmm.
ses espaces rocailleux, en fait, toute sa grande diversité. Mais à partir du moment où on en voit la beauté, il y a un élan chez l'être humain naturel qui est de vouloir s'harmoniser avec elle,
mm-hmm.
et de reconnaître ses propres paysages intérieurs qui nous viennent de la terre elle-même. Il y a une célébration qui est fondamentale pour pouvoir nous amener à une autre relation à l'environnement, à la nature.
Oui, c'était en lien avec cet éveil. C'est très poétique ce que tu dis. Un éveil avec le sens du beau, du bien et du juste, ce que Platon nous disait, et par ce que devrait être l'éducation... dans un sens classique, c'est-à-dire éveiller, faire jaillir de ce sens du beau, c'est-à-dire l'éveiller en soi. Et Platon nous parle de cette éducation globale de l'être humain, c'est-à-dire la musique de l'âme, de s'éveiller à l'harmonie par l'étude de la poésie, de la musique, l'écriture, la peinture et... cet éveil de l'âme qui va chercher naturellement le beau, l'harmonieux ou ce qui paraît juste, donc en soi et autour de soi. Donc c'est une idée en fait qui résume un peu la pédagogie, je dirais, de Nouvelle Acropole, c'est-à-dire d'éveiller, non seulement de faire cet éveil, mais de le vivre par, comme ce que Platon nous disait avec la gymnastique du corps, mais qui n'est pas simplement la gymnastique physique, mais cette discipline physique, c'est-à-dire d'être capable de s'organiser, de ne pas juste penser et être émerveillé des grandes idées, des grandes poésies, de ce qui est élevé, mais de le vivre, c'est-à-dire concrètement. Et ça demande discipline, constance, persévérance, être capable de concrétiser des idées et de les maintenir dans le temps. C'est tellement, même si ça a l'air simple, on sait, je pense, si on s'observe, c'est pas si simple de concrétiser ce qui nous inspire, ce qui nous paraît juste, ce qui nous paraît comme étant ce qu'il faut, ce que mon propre âme appelle.
C'est ça, ce dont notre âme a besoin, a soif, ce qu'elle appelle. Puis en même temps aussi, c'est que quand elle se rend compte, cette harmonie, de la nature, par exemple, quand on peut y raisonner, quand on peut entrer en résonance avec elle, ben, ça nous amène une perspective sur ce qui est essentiel, sur les valeurs fondamentales. Alors, il y a moins besoin des valeurs en termes de valeurs matérielles, de valeurs de placement en bourse ou quoi que ce soit. Tout ça devient vraiment superficiel et désuet. Et puis, on s'aperçoit que c'est très artificiel tout ça et que ça amène à une vie très déconnectée, très désincarnée, très décharnée, je dirais. Il faut pouvoir se reconnecter vraiment à ce qui est fondamental. Et à ce moment-là, on retrouve les véritables valeurs qui peuvent éclairer, illuminer la vie de l'être humain et le rendre heureux. Parce qu'on vit dans des sociétés où il y a énormément de ressources matérielles, mais où en même temps, on crée des prisons. On est enfermé dans les ressources même artificielles que l'on crée et on devient complètement déconnecté du vivant.
Mm-hmm. Oui, effectivement. C'est le risque qui peut se passer, en fait. Et cette idée, en fait, on pourrait le développer davantage, mais je vois aussi, à moins que je te laisse le mot de la fin, on voit déjà que le temps a passé là, pour cette entrevue. Si tu veux ajouter quelque chose, parce qu'on aura d'autres occasions, il y aura bientôt, si je peux dire un mot, une série sur l'art que tu vas animer, podcast et peut-être vidéo, ça sera à voir. Donc pour ceux qui nous écoutent, soyez à l'écoute, soyez à l'affût des prochaines entrevues avec Céline qui vont sortir. Et il y en aura d'autres sur être philosophe aujourd'hui. J'essaie de rencontrer le plus de gens que je peux ici à l'école qui sont là, que ce soit après quelques semaines que jusqu'à plusieurs années d'application, de vécu philosophique. Donc voilà. Je ne sais pas si...
Ben Michel, c'était une grande opportunité de pouvoir être avec toi cet après-midi puis d'échanger sur ce qui est important dans l'existence. Et puis, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir que chacun de nous a pour pouvoir transformer le mode de vie déconnecté qu'on peut avoir et retrouver la relation à ce que c'est être véritablement humain et profiter de cette merveilleuse expérience que nous avons de naître, de se développer, de vivre, de comprendre le monde dans lequel on est. Donc, ça a été un véritable plaisir.
De vivre cette aventure que l'on appelle la vie. Donc, merci beaucoup, Céline, et on se dit à très bientôt.